Seconde chance, par Rachel de Caro. Texte en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Jehan sous licence CC BY-NC-ND 3.0. Seconde chance. Pépé Bouchetrou. José tourne et retourne la carte d'invitation entre ses doigts. La formule est nouvelle. Retour sur le passé. Prévoyez vos photos pour album à élaborer. Encore une idée bien à eux. Suivre la vie des uns et des autres, entretenir un lien qui n'existe qu'à travers ces rencontres, et voilà maintenant qu'ils veulent créer un livre pour témoigner de leur passé et peut-être de ce qu'ils sont devenus. Tous les ans, il a reçu une de ces invitations et à chaque fois, il a répondu d'un petit mot pour la décliner. Il ne voit pas l'intérêt de ces réunions annuelles de vieux copains, copines et d'anciens camarades dont la plupart sont oubliés. Combien y viennent ? Il l'ignore et cela ne le préoccupe pas. Il imagine qu'ils ont tous été dispersés aux quatre points cardinaux du monde, sur les cinq continents, dans les six coins de l'hexagone français, chacun dans sa vie privée, professionnelle, avec réussite ou échecs à la clé. Même si pour certains, il aurait aimé garder un lien, pour la plupart, il n'éprouve qu'une indifférence à peine teintée de nostalgie de cette période-là. Il faut avouer que ce n'était pas le moment le plus faste de sa vie. Il n'était pas un élève particulièrement brillant, mais pas un cancre non plus. Il avait des facilités dans les maths, la géométrie, les langues. Là, c'était peut-être son ascendance hispanique qui avait joué. Bilingue depuis l'enfance, il n'avait eu aucune difficulté à appréhender l'anglais. Il n'était pas non plus le plus beau gars de la classe. Il n'était pas moche non plus, sportif, mais sans excès. Moyen, banal, se qualifiait-il lui-même. Surtout qu'il n'avait rien d'un meneur. Discret, presque renfermé, il était choisi pour compléter une équipe de basket, un groupe de travail en technologie en informatique. Bref, il savait qu'il était un peu le bouche-trou de service, d'un niveau suffisant pour être utile. La fin de ses études, couronnée par un diplôme durement arraché, l'avait amené à regagner son milieu en Espagne, où l'attendait la direction de la société familiale et surtout la future épouse choisie depuis longtemps par ses parents et ceux de la jeune fille, ce lien permettant d'éviter la dispersion du capital. Comme toujours discipliné et obéissant, José avait consenti à suivre la voie qui lui avait été tracée. Il avait consciencieusement poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs et avait mené une vie professionnelle irréprochable. Dans sa vie privée, il avait été bon mari et bon père, avait participé, autant qu'il lui en avait été laissé le loisir, à l'éducation de son fils et de sa fille. Cependant, il savait que son existence, passant pour réussie aux yeux de tous, avait été sans relief et sans éclat particulier. Parfois, il en éprouvait quelques regrets. Il n'avait pas connu de succès mirobolant dans sa profession, pas d'amour fou embrasant son cœur, aucune de ces situations extraordinaires qui font le lit des romans et films primés dans les festivals. Il sourit en regardant le prénom inscrit sur la carte d'invitation. Pépé, le diminutif classique de son prénom de naissance, José. Depuis que ses copains l'avaient découvert en classe d'espagnol, il le lui avait définitivement attribué, trouvant qu'il correspondait bien à l'image que donnait leur copain, un père tranquille, un pépé, avant l'heure. José était ainsi passé de sa qualité d'adolescent à son état actuel de grand-père, simplement sans changer de nominatif. Tout le monde l'avait toujours appelé pépé. Ses petits-enfants, pépé, sans que cela ne change rien. Encore une fois, cette sensation de linéarité plane qui finit par lui peser. Parfois, il se demande s'il n'a pas raté un embranchement dans sa vie, si une petite volonté de différence, matinée d'un soupçon de rébellion, n'aurait pas changé radicalement son destin. Des regrets, des remords, il ne sait pas s'il en a, s'il devrait en avoir. Son fils aîné l'a remplacé à la tête de la société familiale. Il s'est marié à une fille de bonne famille. Il a lui-même deux enfants qui aiment sauter sur les genoux de leur grand-père. Sa chère épouse est malheureusement décédée depuis quelques années. Il n'a pas cherché à refaire sa vie. Il a mené sa fille cadette à l'hôtel pour la remettre à un jeune homme dont il n'aurait su dire s'il l'aurait choisi pour son bonheur. Ils vont s'installer tous les deux à l'autre bout du monde afin de réaliser leur choix professionnel. Est-ce là ce départ ou l'ensemble de ces circonstances qui le réduisent à une vie solitaire, qui l'a poussé cette année à répondre favorablement à l'invitation ? Sans renier ce qu'a été sa vie, il a repensé à ses années d'études, à ses camarades, plus ou moins amis. Amusé, il lui est revenu le son cristallin d'un rire, celui de Nathalie. Sera-t-elle de la fête ? Devant le miroir de sa chambre d'hôtel où il est descendu pour venir participer à la rencontre annuelle des anciens de sa classe, il hésite. Doit-il mettre une cravate ou un nœud papillon sur sa chemise ? Il s'interpelle lui-même. « Tu mettrais quoi, toi, Pépé ? Et toi, José ? Pour eux, j'ai toujours été Pépé. En fait, je ne sais rien de ce qui m'attend. Le rendez-vous est une salle réservée dans un restaurant. On va manger et papoter. C'est pas une cérémonie, une remise de diplôme. Alors pourquoi faire des chichis ? Je ne vais pas me faire remarquer. D'ailleurs, ce serait bien la première fois. Je me demande pourquoi ils ont persisté à m'inviter. Je n'ai jamais voulu les revoir jusqu'à aujourd'hui. Que savent-ils de moi ? Rien ou tout ? Avec Internet, aujourd'hui, on ne peut rien cacher de ce qu'on devient, surtout si l'on a des responsabilités professionnelles. Je suis bien certain qu'ils en savent un max. Je n'ai pas cherché, moi, à les suivre, à savoir ce qu'ils devenaient. J'aurais peut-être dû le faire avant d'accepter de venir. J'aurais eu l'air moins ahuri. Je ne pense pas que je vais me retrouver dans ce rôle de bouche-trou que l'on m'attribuait autrefois. On n'est pas dans une situation où l'on place les gens à table en alternant les hommes et les femmes, où l'on s'oblige à assembler un cavalier à chaque danseuse. Enfin, je l'espère. À nouveau, un souvenir lui revient en tête. Il s'est trouvé plusieurs fois dans le cas où il a servi de bouche-trou auprès d'une fille esselée, qui elle-même remplissait le rôle de la copine moche, destinée à valoriser les jolies filles qui rivalisaient de charme auprès des beaux gars de la bande. Au final, Nathalie et lui, associés par la force des choses, devenaient les porteurs de chandelles et servaient officiellement de chaperons à leurs copains et copines en mal d'exploits amoureux. Nana, peau de nouille. Nathalie est heureuse. Elle va participer une nouvelle fois à cette réunion annuelle des camarades d'études organisée par Daniel, leur ancien leader. Certes, elle n'a jamais été en tête des invités et son absence serait à peine remarquée, mais elle se fait un point d'honneur à y venir, à se rendre utile aussi. C'est peut-être cette fonction-là qui d'ailleurs la fidélise. Elle n'a pas beaucoup d'illusions sur les sentiments que les autres lui témoignent. Mais qu'importe, contrairement aux filles de la classe, elle ne s'est jamais fait du cinéma, n'a jamais cinglé vers les rives du succès auprès des garçons. Elle n'a pas été la dulcinée d'un bel hidalgo, et pourtant, il y en avait un dans la classe, mais si distant qu'il ne regardait jamais personne. Pour parler plus succinctement, elle n'avait jamais été que la cinquième roue du carrosse, celle qui ne sort que lorsqu'on a besoin d'elle, loin d'être fascinante, mais si indispensable. Elle avait bien eu une expérience à laquelle elle avait mis fin assez rapidement. L'engouement soudain et improbable d'un copain. Elle met toujours les guillemets en pensant à ce garçon qui s'était mis à lui accorder une attention particulière, une cour sans finesse, et qui avait laissé dévoiler rapidement ses intentions. Les bons résultats en cours de français et philosophie de Nathalie en étaient la véritable raison. Elle n'avait pas été longue à comprendre, d'autant plus qu'elle avait bien vu l'attitude ricaneuse des autres filles qui se moquaient à la fois du garçon et d'elle aussi. Est-ce que c'était de ce moment-là que datait le surnom qui lui avait été dévolu ? Peut-être. Toujours est-il que de Nathalie, elle était devenue Nana. Ajoutez à cela une blondeur nordique héréditaire, avec une peau claire, couleur nouille, qui ne savait que rougir au soleil. Alors, par référence aux œuvres de Zola qu'on lisait sans relâche, Peau bouille et Nana, entre autres, le qualificatif de peau de nouille était venu rejoindre le diminutif. Elle en avait été très fâchée, mais sa colère n'avait fait qu'exciter les moqueries. Alors, elle s'était résignée, puis s'en était servie pour infliger quelques cruelles déceptions tant aux filles qu'aux garçons lorsqu'ils voulaient lui attribuer le rôle de porteuse de chandelles. Désormais, la seconde partie du surnom, peau de nouille, il n'y avait plus qu'elle qui l'utilisait quand elle voulait se débarrasser d'une demande importune. Elle ne s'en privait pas, et certains avaient fini par reconnaître que c'était particulièrement injuste. Certes, elle n'était pas belle au sens de canon de la beauté. Elle pouvait même être qualifiée de jolie quand elle était bien maquillée, coiffée, et qu'un sourire éclairait son visage. Mais la beauté artificielle, ce n'était pas son truc. Elle préférait rester nature, et là, il fallait la connaître pour découvrir sa gentillesse, sa gaieté, son empathie, son charisme enfin. Tout cela pour dire que ces réunions annuelles l'amusent sans qu'elle n'y attache une importance particulière. Elles sont un moment de distraction qui lui permet d'assouvir sa curiosité sur les devenirs des uns et des autres, du moins de ceux qui veulent bien venir. Certes, les absents ne sont pas exempts des bavardages. Certains donnant des nouvelles par l'intermédiaire des présents, d'autres laissant des traces de leurs occupations sur le net. D'aucuns se mêlent de récolter les informations qu'ils se font un plaisir de partager avec les autres. Nathalie n'est pas de cela. Elle n'aime pas les racontars et se contente d'écouter les nouvelles données par ceux qui viennent les énoncer en personne. Toujours volontaire, elle a accepté cette année de s'occuper de la mise en œuvre d'un rétroprojecteur destiné à afficher sur un écran les photographies apportées par les uns et les autres. Elle participe à la création de leur livre de souvenirs et va coordonner les choix des illustrations, la mise en page, alternant les textes et les clichés qui seront choisis au cours de la soirée. Le matériel est amené par Daniel qui le dépose sur une table. Tu verras, c'est facile à brancher. Voici une rallonge et tu trouveras la notice dans la boîte. L'écran sera descendu là-bas, au fond de la salle. D'accord, je vais essayer de me débrouiller. Je suis à côté pour l'installation des tables. Nathalie n'est pas totalement ignare et sait en général se servir des matériels qui lui passent entre les mains. Mais là, il s'agit de quelque chose de nouveau. Elle ouvre la boîte, sort le rétroprojecteur et le place sur le support qui le mettra à la bonne hauteur par rapport à l'écran. Elle déroule les câbles et les branche entre eux. « Tu t'en sors ?» questionne Daniel de loin. « Oui, ça me semble assez simple, » répond-elle en feuilletant cependant la notice. Écrite en toutes sortes de langues, la traduction en français semble assez approximative. Seule une feuille volante comportant les consignes de sécurité est parfaitement explicite. Elle lit « Ne pas utiliser le matériel dans une pièce humide. Ne pas plier ou pincer les câbles. Vérifier le sens de chargement des piles de la télécommande. Et aussi quelques situations de panne. Si votre matériel ne s'allume pas, vérifiez le raccordement au secteur. Actionnez l'interrupteur marche-arrêt. » Recommandation basique, ils nous prennent pour des nuls. Bon, je ne suis pas plus idiote qu'une autre, ça devrait fonctionner. Là, j'ai bien branché la prise. Voyons le bouton d'allumage, ça marche. Maintenant la télécommande. Ah, elle ne fonctionne pas. Dis donc, Daniel, tu as des piles neuves pour la télécommande ?
Je viens de les changer.
Ah bon ? Ben... Prise d'une inspiration, elle ouvre le boîtier et grimace. Sacré Daniel, pas bricoleur pour deux sous. Évidemment, une des piles n'est pas bien placée. Elle la retourne et remet la plaque de plastique. Le rétroprojecteur répond aux injonctions de la télécommande. Il ne reste plus qu'à visser ou dévisser les pieds avant de la machine pour que l'image se place au centre de l'écran. Daniel revient vers elle. « Alors, eh bien, ça va ? Bravo, Nana, je savais bien que tu t'en sortirais. » Elle sourit. Inutile de lui indiquer son erreur, il trouverait bien une excuse pour ne pas l'assumer. Elle le connaît bien, il ne se trompe jamais, lui. La bonne compagnie. Finalement, ils se retrouvent une bonne cinquantaine cette année. Camarades de classe, parfois d'années différentes, venus avec leurs conjoints respectifs, ils sont heureux de fêter une année de plus ensemble. Comme toujours, ils arrivent avec leurs histoires, leurs spécialités locales, parfois leurs productions personnelles. Ainsi, Raymond a tenu à faire partager à tous son absinthe, cultivée dans son jardin. Puis les feuilles gris-vert ou vert-de-gris sont mises à macérer dans de l'alcool de fruits généré par le bouilleur de crue ambulant. Autant dire que ce n'est pas de la piquette. Il mire la couleur verte de sa fée bleue et s'étendrait bien en une longue conférence sur le sujet si on lui en laissait le loisir. Heureusement, il n'a amené que quelques bouteilles suffisantes pour goûter le breuvage, mais pas pour saouler les buveurs. D'autres ont amené des gâteaux pour garnir un buffet de gourmandises, selon leurs habitudes de programmer un menu sans dessert permettant à chacun de choisir selon ses préférences et d'exprimer ses qualités ou son inventivité de pâtissier ou pâtissière. Parfois, une consigne est donnée pour exciter la créativité des participants. Les nuances de verre étaient à l'honneur cette année et personne n'est déçu. Ainsi s'étale dans un plat les tranches d'un cake aux pistaches et aux amandes dont la couleur jaune-vert paraîtrait vénéneuse en d'autres circonstances. Plus loin, l'angélique confite à la transparence d'émeraude orne une brioche dorée, tandis qu'une tarte à la rhubarbe rivalise de sa verdeur passée avec un crumble au reine-claude acidulé. Une salade de fruits frais exhibe ses tranches de kiwi au pointillé noir sous les fines écorces du citron vert et quelques feuilles de menthe décoratives. Après les agapes dûment accompagnées de libations raisonnables, mais surtout de discussions sans modération, tout en dégustant un café, Daniel expose leur projet de réalisation d'un album photo, texte, souvenir, qui sera imprimé pour que chacun en garde un exemplaire. Il a reçu, à la suite de sa proposition, des projets d'articles, des clichés plus ou moins anciens, et avec Nathalie, qui est finalement sa collaboratrice la plus dévouée autant que bénévole, il a commencé une sélection et une mise en page qu'il expose à tous grâce au rétroprojecteur. Le travail est approuvé autant que discuté. Il inspire d'autres participations à venir et des promesses de partenariat sont échangées. Puis, place a été faite à leur habituelle soirée dansante, sur les airs de leur jeunesse, grâce à une playlist qu'ils connaissent par cœur, mais qui leur rappelle tant de bons moments qu'ils ne rechignent jamais à la suivre avec entrain. Les tables sont repoussées contre les murs et peu après, par couple ou en groupe selon les airs, tous s'agitent sur la piste. Une boule à facettes miroir tourne au-dessus d'eux, c'est kitsch au possible, mais cela les amuse et les ramène dans leurs jeunes années insouciantes et prometteuses. Les années précédentes, Nathalie dansait, seule ou avec les uns et les unes parfois, participant de manière endiablée à cette fête où personne ne cherche plus à briller et surpasser les autres. Sans triompher, elle reconnaît que les années ont souvent desservi les copines auxquelles elle servait de faire valoir. Contrairement à elle, souvent défraîchie, parfois même franchement ridée, elle n'a pas trop vieilli, ou plutôt les années ont éclairé d'une harmonie sereine son visage autrefois ingrat. Mais elle n'en a cure, ne cherche pas davantage à plaire, ne revendique aucune revanche. Son caractère heureux lui a conservé sa faculté d'optimisme et son rire cristallin. C'est lui que José a entendu en premier lorsqu'il est arrivé au rendez-vous. Étrangement, son cœur a bondi dans sa poitrine, étreint d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie depuis qu'il était parti. Il était entré dans la pièce et l'avait vue, pareille à elle-même, simple et gaie, heureuse de partager un moment amical avec d'autres personnes. Il doit reconnaître qu'elle est pratiquement la seule qu'il ait reconnue parmi tous les participants à cette réunion. Il est resté discrètement près de l'entrée, pourvu d'un verre de kir distribué distraitement par un porteur de plateau, jusqu'à ce que Daniel l'entraîne vers une place à une table, où Nathalie est déjà installée. Il se demande si leur ancien leader n'a pas volontairement reconstitué leur couple improbable, celui du copain bouche-trou et de la copine moche, mais il ne lui en veut pas. Il se dit qu'elle est la seule personne qu'il avait au final envie de retrouver. Elle, elle l'avait bien vu entrer dans la pièce, mais elle n'avait pas voulu se précipiter sur lui. Après tout, elle ne sait rien de sa vie, puisqu'il n'est jamais venu à ses réunions. Elle n'a pas non plus échangé de correspondance avec lui. Il était parti à la fin de ses études, et seules des informations puisées sur le net avaient circulé sur son parcours professionnel et un peu sur sa vie personnelle. Mais elle ne voulait pas avoir le sentiment de l'espionner. Alors, elle n'avait jamais effectué elle-même de recherche à son sujet. Pourtant, il avait emporté une partie de son cœur et beaucoup de ses rêves d'étudiante lorsqu'il avait regagné son pays d'origine. Et voilà que ce diable de Daniel les rassemble autour de la même table. Elle ne va pas refuser l'occasion de renouer un lien devenu bien ténu. Elle se demande s'il la reconnaît, mais dès les premiers mots, elle n'a aucun doute. « Bonjour, Nathalie. Toujours aussi blonde et jolie. » Il est bien le seul qui l'appelle par son prénom entier. Quant à ce compliment, elle sait qu'il est sincère. Jamais il ne se moquerait d'elle, pas plus que d'une autre personne. « Bonjour, José. Toi aussi, tu es toujours le beau ténébreux. » Avec quelques touches de blanc, répond-il en touchant les pattes de sa chevelure devant ses oreilles. « Cela ne fait qu'ajouter à ton charme, belle Hidalgo. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs, mais ils ne se voient pas. » Ils continuent leur discussion légère sur un ton badin qui n'excite pas la curiosité de leurs voisins de table. Pas plus l'un que l'autre, ils ne tiennent à étaler leur vie privée. Puis durant l'exposé pour le futur livre de souvenirs, José retrouve là encore les qualités de l'élève studieuse et appliquée qu'elle était. Il l'admire d'avoir su conserver ses facultés malgré les aléas de sa vie qu'elle lui a laissé entrevoir à mots couverts. Il se souvient de la charade qu'il avait inventée pour son ami. « Mon premier est un mot d'enfant. Mon second est le second possessif féminin. Mon troisième est au creux de la rivière. » Il n'avait jamais osé la lui dire. Le moment de la danse les rapproche encore davantage. Comme à l'époque de leur adolescence, ils s'invitent mutuellement pour ne pas faire tapisserie. Mais ce qu'ils faisaient par défaut à l'époque, ils le réalisent aujourd'hui de leur plein gré, avec un plaisir nouveau. Il a laissé entrevoir sa solitude. Elle lui a donné à deviner qu'elle n'a pas non plus de compagnon. La similitude de leurs situations respectives les attire comme des aimants. Arrive la fin de la musique, la fin de la soirée. Tous se séparent en se promettant de se retrouver l'année prochaine. La voiture de José est garée dans une rue avoisinante. Son hôtel est en périphérie de la ville. Le studio de Nathalie, loué pour la circonstance, est de l'autre côté du fleuve. José propose de la raccompagner. Elle accepte. D'accord, mais inutile d'y aller en voiture. Il n'y a pas de place pour se garer au bas de l'immeuble. Ce n'est pas très loin. Alors, allons-y à pied. C'est en arrivant au milieu du pont, au-dessus du fleuve scintillant des lumières de la ville, qu'elle lui dit « José, c'est tout petit là où je loge. C'est juste une chambre de bonne. Et je n'ai rien à t'offrir à boire. Tu préfères pas qu'on aille dans un bar pour finir la soirée ?» Il la regarde et sourit. « J'ai une autre proposition. Veux-tu venir à mon hôtel ? Je ne sais pas, vu l'heure, si le bar sera encore ouvert, mais il y a un mini-bar dans ma chambre, et je te ramènerai en voiture quand tu le désireras, quelle que soit l'heure. Mais j'ai envie de continuer à discuter avec toi. On a beaucoup de choses à se raconter. Non ?» Elle glisse sa main sous son bras en se tournant vers lui. Elle lui rend son sourire. « D'accord, emmène-moi, où tu veux. »«
Je te tiens, tu me tiens. Vous êtes bien curieux. Croyez-vous que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel ? Ne comptez pas sur moi. Je trouverai bien 50 raisons, mais il m'en suffit de 5. Cela ne vous regarde pas. Interdiction d'indiscrétion, intimité intégrale. N'ayez aucun regret, vous avez tout loisir d'imaginer ce que vous voulez. » Que la fin de l'histoire vous satisfasse suffit au bonheur de nos héros.
Sachez simplement qu'ils ont fait un sort aux bouteilles du mini-bar, ainsi qu'aux cacahuètes et autres biscuits posés sur la desserte. Les oreillers à mémoire de forme ont gardé l'empreinte de leur confidence. Lorsqu'il entr'ouvre les yeux, José s'étire et tend ses bras en travers du lit. Il est vide, comme d'habitude, alors qu'il ne devrait pas l'être. Cette idée fulgurante l'éblouit. Le souvenir de Nathalie lui revient. Où est-elle ? Aucun bruit dans la salle de bain voisine, mais un petit mot sur la table de nuit. « Salut José, tous les rêves ont une fin, je dois prendre le train de 10 heures ou celui de midi si je le rate. Je te remercie, à bientôt. Baiser, Nathalie. » Brusquement, un violent coup au cœur. Pourquoi est-elle ainsi partie sans le prévenir ? Elle n'a pas parlé d'un impératif l'obligeant à rentrer chez elle. A-t-il commis un impair ? Pourtant, tout semblait couler de source entre eux hier soir, comme s'ils se retrouvaient enfin. La tête lourde, il lui semble qu'il a dormi 100 ans. Pourquoi sa princesse ne l'a-t-elle pas réveillé d'un baiser ? Il est près de 9 heures, il se jette sur ses vêtements, s'habille, une toilette hâtive, pas le temps de se raser, tant pis. Et il est au volant de sa voiture. Le GPS tente de lui indiquer le chemin, sinon le plus court, du moins le plus rapide, compte tenu de la circulation, pour arriver à la gare. Évidemment, les parkings les plus proches sont pleins. Il court pour arriver sous le panneau d'affichage. Encore 5 minutes avant le départ, il se jette dans l'escalier, passe sous les voies par le souterrain, remonte 4 à 4 alors que les portes du train se ferment. Immobile, paralysé, il voudrait crier son nom. « Nathalie, c'est pas fini !» Quelques personnes agitent leurs mains pour saluer les voyageurs.
Il veut courir le long du train, tenter d'apercevoir le visage de son ami à travers les vitres. Mais le convoi prend rapidement de la vitesse et les feux arrière s'éloignent inexorablement. Il s'assied sur un banc au milieu du quai déserté. Il tente de faire le point, de prendre la mesure de ce qui s'est passé depuis hier. Aucune raison justifiant un départ aussi urgent ne lui vient à l'esprit. Il sort son téléphone portable de sa poche, mais il est éteint, faute de batterie, sans doute. Ils ont échangé leur numéro hier, mais il ne peut même pas consulter son répertoire. Il laisse vaguement errer son regard autour de lui. Sans y attacher d'importance, ses yeux lisent la dernière publicité de la SNCF pour leur voyage low cost. « Ouigo pour voyager à gogo !»« Oui, pense-t-il, moi aussi, j'aurais voulu voyager à gogo avec elle !» Des pensées déferlent dans son esprit comme un tsunami qui emporterait tout. « Oui, voyager dans les pays qu'il n'a jamais eu le temps de découvrir !»« Oui, lui offrir ses séjours qu'elle n'a jamais pu se payer !»« Oui, lui dire simplement oui !» Oui, pour toujours, parce qu'ils ont, eux aussi, droit à une seconde chance, à un second voyage. Il se lève, il sait ce qu'il va faire. Retourner à l'hôtel, récupérer son bagage, prendre sa clé et régler sa note. Puis, il fera profil bas et téléphonera à Daniel pour lui demander les coordonnées de Nathalie. Il sait que cela donnera certainement naissance à une rumeur, mais il n'en a cure, et il la rejoindra enfin. Oui, go ! S'ordonne-t-il, rempli d'espoir. Il ne perd pas de temps, reprend sa voiture et regagne son hébergement. Dès qu'il entre dans le hall d'accueil, le réceptionniste l'appelle. « Une dame est passée, elle voulait vous voir. »« Vous lui avez donné une clé, elle m'attend dans ma chambre ?»« Non, nous n'avons pas le droit. Je lui ai proposé de vous attendre au bar, mais elle a dit qu'elle n'avait pas le temps. Elle doit repartir prendre son train, a-t-elle dit. »« À quelle heure est-elle venue ?»« Il était 10h30. En fait, elle vient de repartir. Vous vous êtes raté de peu. » « Merci !» José retient son sourire. Elle n'a pas pris le train de 10 heures. Elle est même revenue pour le voir. Mais alors, pourquoi est-elle repartie? A-t-elle eu peur d'être mal reçue? Ou bien n'a-t-elle pas voulu lui forcer la main? Après tout, hier soir, ils ne se sont rien promis. Ils n'ont pas pris le temps. Ils avaient trop de choses à partager, enfin. Il fonce dans sa chambre, passe par la salle de bain pour un rasage express sous la douche, entasse ses vêtements dans sa valise, puis revient à la réception. Il paye son séjour et rend la clé, puis reprend la route vers la gare. Cette fois-ci, il devrait arriver bien avant le départ du train. Il va la guetter et ne pas la laisser repartir seule. En tout cas, pas sans une explication. Le trajet est plus rapide à cette heure-ci. Le parking, moins encombré, lui permet de se garer plus facilement. Il a branché son téléphone portable sur la prise allume-cigare. Il peut l'allumer et retrouve le numéro de Nathalie. Il l'appelle avant de quitter sa voiture. La batterie n'est pas encore assez chargée. « Allô, Nathalie ? Oh, José, salut ! Tu vas bien ? Ça va, et toi, où es-tu ? Je suis dans le tram. Je vais bientôt arriver à la gare. Enfin, j'espère. Il ne faut pas que je rate le train de midi. Je voulais te proposer de passer la journée ensemble et... Je... Il fallait que j'y aille, José. Je suis désolée. Mais tu ne peux pas partir comme ça ! Écoute, José, je ne peux pas te parler ici. On en discutera plus tard, tu veux bien ? Mais pourquoi es-tu parti si tôt ? Qu'est-ce qui t'obligeait ? Je dois m'occuper de Maurice. Je te rappelle quand je suis rentrée, d'accord ? Oui, bon voyage. Oui, go ! Résonne dans l'esprit dévasté de José. Il se révolte. Maurice, c'est qui celui-là ? Le poisson rouge de la publicité qui a mangé tous les chocos suisses ? Il repense à la réflexion que disait le petit garçon. « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. »« Oui, ben, il va pas l'emporter au paradis, sa belle Nathalie, celui-là, » grommelle José en se mettant à courir. Il faut absolument qu'il l'intercepte avant qu'elle ne monte dans le train. Il doit connaître le fin mot, découvrir ce qu'elle lui a caché. Ensuite seulement, et s'il l'estime acceptable, il se résignera et la laissera partir. Mais il veut se battre pour ce bonheur qui était hier soir, ce matin même, avant son réveil, à portée de sa main. À nouveau la course dans les couloirs, dans les escaliers, impossible d'emprunter la rampe encombrée de chariots chargés de valises. Essoufflé, il parvient sur le quai, coup d'œil à gauche, puis à droite. Ah, enfin, il la reconnaît. Nathalie ! Elle se retourne vers lui et lâche son bagage quand il la prend dans ses bras. Elle répond à son étreinte et cela le rassure un peu.
L'heure du départ approche, les voyageurs se pressent, les bousculent, certains rouspètent à mi-voix. Alors José prend la mallette et entraîne sa compagne à l'écart, hors du flot des partants. Il n'a qu'une question. C'est qui ce Maurice ? Presque jaloux, inquiet, il attend la réponse. D'une petite grimace contrite, elle répond « C'est un vieux monsieur auquel je rends visite régulièrement. Pardonne-moi, je n'ai trouvé que son nom pour... Pourquoi ? Je peux aller le voir avec toi si tu veux. Mais pourquoi te sauves-tu ainsi ? Tu n'as pas envie qu'on reste un peu ensemble ? Qu'on fasse un bout de chemin tous les deux ? José, tu sais bien que je rate tout. Je ne voulais pas t'entraîner dans cette malchance qui me poursuit. Moi, je vais t'emmener avec moi et nous réussirons notre vie. Tu apporteras ta fantaisie, ton imprévu dans ma vie trop plane. Nous partagerons tout. Je veux tout risquer avec toi et je veux triompher de tes échecs. » Encore hésitante, elle le regarde, puis elle éclate de son rire cristallin qu'il aime tant. Il la prend à nouveau dans ses bras. Il sait qu'il vient de remporter une victoire. Enlacé, il regarde le train s'éloigner sans elle. Il sait qu'ils ne le regretteront pas. Aucun photographe n'est là pour immortaliser leur baiser, et pourtant, c'est le serment le plus authentique de tous les temps.
Tu moches !
L'annonce du départ du train suivant pour une quelconque destination les ramène à leur réalité. Allons déjeuner. Je n'ai même pas pris un café ce matin. Je peux te dire que tu m'as bien fait courir. Main dans la main, ils vont déposer le bagage de Nathalie dans la voiture de José, puis cherchent un restaurant à leur goût. Peu après, installés dans un coin discret, à l'abri des regards, ils passent commande puis se regardent, les yeux dans les yeux. José prend les mains de Nathalie par-dessus la table. « Pourquoi voulais-tu partir si vite ? Dis-moi tout. » Elle a un petit sourire tremblant, un voile de tristesse flotte devant ses yeux. « Je ne suis pas comme toi, José. Ma vie n'est qu'une succession de chaos, d'embûches. Je n'ai pas raté une seule fausse route. Je suis allé d'impasse en impasse. J'ai régulièrement été retoqué à la case départ, mais je n'ai jamais touché les 20 000 francs. Je ne voulais pas t'entraîner dans ce désordre. À nous deux, on saura y mettre bon ordre, tu ne crois pas ? Tu as droit à une seconde chance, toi aussi. Et j'ai l'impression qu'elle passe en ce moment. Je ne veux pas la laisser passer. » J'ai toujours été considérée comme la copine moche, puis la fille, la femme qu'on choisit par défaut, mais qu'on remplace à la première occasion. Ça a été la cause de mon mariage, puis de mon divorce. Je me suis pacsée ensuite avec le père de mon second enfant, mais là non plus, ça n'a pas marché. À chaque fois, c'était pour une autre femme, évidemment, plus jolie. Moi, je te trouve très belle, et depuis toujours, si je n'avais pas, après mes études, cédé à la pression familiale, je t'aurais certainement demandé en mariage. Je regrette de n'avoir pas su résister. Je t'ai laissé tomber, en quelque sorte. Nous n'étions pas ensemble. Tu ne m'avais rien promis. J'ai pensé souvent à toi. Comme à un amour impossible, ton souvenir m'a fait rêver. Moi aussi, je pensais à toi, en tout bien tout honneur. J'espérais que tu aurais pu avoir une belle vie, comme tu le méritais. Hélas, ce n'était pas le cas. Après ma fille, j'ai eu un second enfant, un fils, d'un homme de passage dans ma vie. Mais dès le départ, je savais qu'il ne compterait pas. J'ai élevé mes deux gamins comme j'ai pu, mais j'avais si peu de moyens qu'ils ont dû partir tôt pour travailler, gagner leur vie et leurs études. Je ne leur ai pas procuré une vie facile à eux non plus. Tu as été courageuse, tu as assumé tes responsabilités, et tu as su affronter les difficultés. Je suis sûre qu'ils ne t'en veulent pas. Non, mais je ne les vois pas beaucoup, ils ne vivent pas près de moi. Mes enfants ont eu la vie plus aisée, je le reconnais, mais ma fille est partie avec son mari à l'autre bout du monde. Quant à mon fils, il est aussi pris dans les affaires que je l'étais à son âge. Je vois davantage mes petits-enfants et sa femme que lui. Comme toi, je suis devenue solo. Et veux-tu vraiment que nous soyons duo ?
Oui, je ne renie pas mon passé, mais je voudrais que mon avenir soit avec toi. Le veux-tu aussi ?
Tout en discutant, José a griffonné quelques mots sur la nappe en papier. La copine moche, le copain bouche-trou, c'est pas dans la poche. Mouchoir, vent debout. Tu moches, pas tu mouches. Sans peur et sans reproche, chanson à la bouche, la solitude nous rapproche. Nathalie le déchiffre à l'envers et se met à rire.
Oui, je le veux.
et qu'en diront nos copains de classe de nous voir ensemble, parce qu'ils finiront bien par l'apprendre. Le meilleur moyen de leur clouer le bec, c'est de le leur annoncer en bonne et due forme. Aide-moi, on va rédiger le « faire part ».
Faire part ? De quoi ?
De notre union, ou réunion, comme tu préfères, si tu veux qu'on se marie.
Oh non, c'est pas indispensable. Alors, de notre réunion. Je te propose un premier voyage à la Réunion, juste pour le fun.
Je ne suis jamais partie aussi loin.
Pour être honnête, moi non plus. Ma femme aimait voyager. Elle est souvent partie avec nos enfants. Je suis restée pour mon travail à ce moment-là. Les affaires, ça ne supportait pas les absences. Aujourd'hui, avec Internet, j'aurais pu me déplacer, travailler à distance. Mais à l'époque, il fallait rester sur le pont, fidèle au poste.
Tu sais que je n'ai pas les moyens de participer. Ne t'inquiète pas pour les dépenses. J'y pourvoirai. Je te demande seulement d'emporter ton sourire et ton rire. Sais-tu que c'est grâce à lui que j'ai su, avant de te voir, que tu étais à la fête des copains de classe ?
José prend une serviette en papier et commence à écrire. Nana et Pépé vous invitent pour le meilleur. Le pire a été épuisé. À partager la réunion de Nathalie et José et vous convient à une soirée de fête pour célébrer ses retrouvailles.
Il ajoute, en lui présentant son écrit, « Nous choisirons la date ensemble et le lieu pourrait être le même qu'hier. Tout le monde le connaît et semble s'en satisfaire. Et puis, nous allons aller voir ton monsieur Maurice. Nous le saluerons, puis tu feras une vraie valise. Nous partirons en Espagne, chez moi. Je te présenterai à mon fils et à sa petite famille. Pour ma fille, nous irons leur rendre visite quand ils seront installés. Si tu veux me présenter tes enfants, j'en serai ravi, et nous prendrons le temps d'aller les voir. Puis nous voyagerons au gré de notre fantaisie, de notre plaisir. Nous nous arrêterons quand nous aurons envie, au bord d'une plage, en haut d'une montagne, au cœur d'une forêt, proche ou lointaine, en pleine ville, au pied de gratte-ciel ou là où tu voudras. » De nouveau, Nathalie éclate de rire. L'enthousiasme de José chauffe son cœur d'un feu nouveau, et à vrai dire, inconnu pour elle aussi. Elle l'interrompt pour dire « Merci, n'en jetez plus. C'est plus qu'une seconde chance, ce que tu me proposes là. Nous n'avons de compte à rendre à personne, n'est-ce pas? Alors soyons fous, aide-moi à le devenir. »
Il la regarde plus sérieusement encore, « Et tu as raison, ce n'est pas une seconde chance que nous avons, c'est notre chance à nous. Et nous ne devons pas la laisser échapper. Tu es d'accord ?
Je suis d'accord. Et j'aime t'entendre dire « nous ».
Ici se termine « Seconde chance » par Rachel de Caro.